Chapitre 1. L'impact de la crise de 1929. Déséquilibres économiques et sociaux. Cours 2. Comment surmonter la crise et la dépression 1929-1939. Quelles politiques sont mises en œuvre pour surmonter la crise et la dépression? A. L'insuffisance des solutions traditionnelles. 1. Des solutions à court terme. Dans un premier temps, s'opère partout une poussée des dépenses publiques. Les États prêtent aux banques, soutiennent les entreprises en difficulté et mettent en œuvre des politiques de grands travaux. Le gouvernement des États-Unis débloque ainsi plus de 11 milliards de dollars. En Italie, l'État mussolinien prend des participations dans les grandes entreprises. En Allemagne, l'État nazi multiplie les grands travaux et réarme le pays pour préparer la guerre. En France, la nationalisation des chemins de fer intervient en 1937. L'assistance aux populations s'organise également. Soupe populaire, soutien aux chômeurs et à leurs familles se mettent en place. Mais ces réponses traditionnelles restent insuffisantes face à une crise d'une ampleur exceptionnelle. 2. La tentation du chacun pour soi. Les pays touchés par la crise cherchent des solutions indépendamment les uns des autres. Les mesures protectionnistes adoptées par un grand nombre d'États provoquent une contraction du commerce international qui recule de 30% entre 1929 et 1939. Les dévaluations sont utilisées par le Royaume-Uni, le Japon ou l'Allemagne dès 1931, aux États-Unis à partir de 1933 et en France en 1936. En 1933, la Conférence de Londres rassemble 66 États souhaitant limiter les perturbations provoquées par la dévaluation de la livre sterling. Son échec provoque l'éclatement du système économique international en trois aires concurrentes. L'une, menée par les États-Unis, utilise le dollar. Le monde britannique reste attaché à la livre sterling, tandis qu'un troisième groupe s'organise autour de la France et du franc or. Cette fragmentation perturbe encore un peu plus les échanges internationaux. B. De nouvelles politiques. 1. Le rôle croissant de l'État. Le libéralisme est profondément remis en cause par la crise de 1929, tandis que les travaux et les propositions de l'économiste John Maynard Keynes connaissent un succès croissant. Déjà expérimenté durant la Première Guerre mondiale, l'intervention massive de l'État dans l'économie s'impose donc, avec pour objectif de concilier croissance économique et progrès social. Le rôle grandissant de l'État marque aussi l'avènement d'une nouvelle classe de dirigeants et d'une nouvelle manière de gouverner. Des conseils d'experts entourent désormais les hommes politiques et les accompagnent dans le processus de prise de décision. Beaucoup de gouvernements appliquent une politique de relance qui implique des investissements massifs, des lois sociales et un déficit budgétaire important. C'est le choix de la France du Front populaire qui permet la signature des accords Matignon en 1936. 2. Le New Deal aux États-Unis. En 1932, le programme du New Deal, ou Nouvelle Donne, porte le démocrate Franklin D. Roosevelt à la présidence des États-Unis. Ce programme économique s'appuie sur des administrations spécialisées comme la Industrial Recovery Administration ou l'Agricultural Adjustment Administration qui soutiennent l'industrie et l'agriculture ou la Works Progress Administration qui lance de grands travaux pour donner du travail aux chômeurs. Des mesures sociales sont également adoptées dans le cadre du Social Security Act de 1935, instaurant un système d'assurance vieillesse. En outre, en juillet 1935, une loi lève les obstacles à l'activité syndicale et à la grève. 3. Le choix du repli. En Europe, l'Italie et l'Allemagne font, à partir de 1934, le choix de l'autarcie et de la course aux armements pour relancer l'économie. À la recherche de nouveaux débouchés, l'Italie accentue aussi sa colonisation en Afrique, invasion de l'Éthiopie en 1935. Le Japon aussi met en place des mesures protectionnistes drastiques avant de basculer à son tour dans l'autarcie. La recherche de matières premières nourrit son impérialisme en Asie orientale et motive son invasion de la Chine en 1937. C. Des sorties de crise inégales. 1. Des pays où la reprise est rapide. Le Royaume-Uni dévalue la livre en 1931 et amorce l'année suivante un repli stratégique sur son empire. En 1935, le pays a surmonté la dépression. Au Japon, en Italie et surtout en Allemagne, les États dictatoriaux entreprennent une course aux armements qui a des effets spectaculaires sur la relance de l'activité et sur l'emploi. Ainsi, en Allemagne, le nombre de chômeurs est divisé par 10 entre 1933 et 1938. 2. Des pays où la reprise est tardive. La France tarde à prendre l'entière mesure de la crise, car elle y entre plus lentement que d'autres pays. Des mesures protectionnistes sont prises, en resserrant notamment les liens commerciaux avec l'Empire colonial. Mais la dévaluation du franc, trop tardive, handicape fortement les produits français sur les marchés mondiaux. À la fin des années 1930, des pans entiers de l'économie restent ainsi en difficulté. Aux États-Unis, les effets du New Deal sont inégaux selon les territoires, les secteurs et les populations. Les populations noires sont par exemple largement exclues des prestations sociales. Le pays peine à sortir de la dépression. Aux États-Unis comme en Amérique latine, la reprise de l'activité économique se produira à la faveur de la Seconde Guerre mondiale.